Vous écoutez, on lit pour vous.
Voir dans les méandres du cerveau. Un texte de Marine Cornu, paru le 18 août 2024 dans Québec Science. Jamais une carte cérébrale n'avait atteint une telle précision. Voici la jungle inextricable des neurones dans un petit bout de cortex humain. C'est un peu comme si on admirait de très près une galaxie et ses milliards d'étoiles. L'enchevêtrement dense de fibres neuronales donne presque le vertige. Et pour cause, dans ce tout petit millimètre cube de cerveau humain, on trouve environ 57 000 neurones, dont les branches se connectent en 150 millions de points. Cette carte colorée est le fruit d'une décennie de collaboration entre des neuroscientifiques de l'Université Harvard et de Google Research. Il s'agit de la reconstitution la plus précise à ce jour de la structure du cortex humain. Enfin, au sein d'un volume équivalent à un demi-grain de riz. Tout a commencé par le prélèvement d'un fragment de cerveau chez une femme opérée contre l'épilepsie. L'échantillon a ensuite été figé et découpé en 5000 tranches d'une épaisseur de quelques nanomètres chacune qui ont été photographiées au microscope électronique. Finalement, les images ont été combinées pour produire une copie virtuelle 3D du modèle initial. Résultat, un atlas cérébral aux allures d'œuvre d'art qui compile 1,4 pétaoctets de données, soit l'équivalent de 500 milliards de pages de texte imprimés. La microscopie électronique, qui emploie un faisceau d'électrons plutôt que de la lumière, est utilisée en neurosciences depuis plusieurs décennies. Mais ce n'est que récemment que les progrès technologiques ont permis d'acquérir des données en coupes successives à cette échelle, explique Daniel Berger, co-auteur de ce travail publié dans Science en mai dernier et chercheur dans l'équipe de Jeff Littman à Harvard. Ce dernier est un pionnier de la connectomique, soit l'étude de la façon dont les neurones sont connectés entre eux et forment des circuits. On lui doit la jolie technique Brainbow, mise au point en 2007 et perfectionnée depuis. Elle consiste à introduire dans les neurones de souris quatre gènes produisant de façon aléatoire et en quantité variable quatre molécules fluorescentes. Chaque neurone émet alors une combinaison lumineuse, donc une couleur, qui lui est propre parmi plus d'une centaine de couleurs possibles, ce qui permet de le différencier de ses voisins. Un cerveau humain contiendrait 500 000 kilomètres de fibres connectées entre elles. Carte au trésor. Pour les scientifiques, cartographier le cerveau est un rêve de longue date. En décortiquant les méandres des circuits neuronaux, ils espèrent comprendre les fonctions complexes comme la cognition, la conscience, les émotions. L'entreprise est toutefois pharaonique. Le cerveau humain compte 86 milliards de neurones, autant de cellules de soutien dites gliales et 100 000 milliards de synapses, les points de connexion assurant les échanges entre neurones et dont l'ensemble forme le connectome. Certains intrépides se sont d'ailleurs cassés les dents en espérant dévoiler les mystères de cette galaxie cérébrale. C'est le cas de Henry Markram, un chercheur de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui avait imaginé l'un des projets les plus ambitieux du genre, le Blue Brain Project. L'idée était de reconstruire fidèlement un cerveau sur un superordinateur en copiant l'organisation et le fonctionnement biologique, neurone par neurone. Le chercheur promettait d'y arriver en 10 ans, de comprendre au passage les maladies comme l'Alzheimer et de mettre fin aux expérimentations animales, car tout pourrait être simulé sur son modèle. Après plus d'1 milliard de dollars de subventions et une décennie d'efforts, le projet a pris fin en 2023 sous un flot de critiques. Malgré des progrès indéniables et la publication de 245 articles scientifiques, seule une modélisation très partielle de cerveau a été obtenue. Et elle est loin d'être à la hauteur. Avec les progrès de l'intelligence artificielle et de la modélisation, les explorateurs et exploratrices du Connectome n'ont toutefois pas dit leur dernier mot. On pense que l'autisme, par exemple, est le résultat d'un câblage cérébral qui se fait différemment pendant le développement. En comparant les circuits neuronaux de cerveau autistique ou non, on pourrait mieux comprendre ces différences, espère Daniel Berger. Son équipe souhaite d'abord décupler la taille de sa carte cérébrale. Notre laboratoire fait partie d'un nouveau projet dont l'objectif est de créer la carte de l'hippocampe d'une souris, une structure clé pour l'apprentissage et la mémoire. Cela pourra apporter une pièce de plus au casse-tête. Et quel casse-tête ! Chaque neurone est connecté à des milliers d'autres neurones, avec en général une seule synapse pour communiquer avec un voisin. Mais les équipes de Harvard et de Google ont découvert de rares duos de neurones connectés entre eux par 50 synapses. Des nœuds de communication, en somme. Nous ne nous attendions pas à trouver des connexions si fortes entre certains neurones et on se demande quelle est leur fonction. Est-ce qu'elles sont apparues parce que la patiente était épileptique? Sont-elles importantes pour le fonctionnement normal ou permettent-elles d'associer des choses apprises? Se questionne Daniel Berger. Voilà de quoi repartir pour une bonne décennie de recherche au bas mot. C'était « Voir dans les méandres du cerveau », un texte de Marine Cornioux, paru le 18 août 2024 dans Québec Science.
Bon Dieu, donne-moi une job. Un texte d'André Magny, paru le 20 octobre 2024 dans Le Franco. C'est peut-être ce titre de chanson du groupe québécois Les Colocs que voudraient reprendre certains nouveaux arrivants francophones en Alberta. Pas toujours évident de s'en trouver une. Heureusement, divers organismes sont là dans le cheminement vers l'emploi souhaité. Quand Jacqueline Bégin est arrivée à Rivière-la-Paix en 1976, elle s'est trouvée assez rapidement un poste comme enseignante de français. Si le travail est venu facilement, ce qui était difficile, c'était le social, confie celle qui habite maintenant à Edmonton depuis 2009. Heureusement, l'ACFA était là pour lui apporter son soutien. Quelques 50 ans plus tard, d'autres organismes ont vu le jour pour soutenir, parfois selon leur territoire, les nouveaux arrivants dans leur démarche pour se trouver un travail, que ce soit à Edmonton ou à Calgary. Globalement, selon des chiffres tirés du portrait démographique de la francophonie albertaine produit par l'ACFA en juin 2024, 80% des francophones qui font partie de la population active travaille dans 5 secteurs. Le transport, la machinerie et les domaines apparentés, 22%. Les ventes et les services, 20%. L'enseignement, le droit et les services sociaux, communautaires et gouvernementaux, 16%. Les affaires, la finance et l'administration, 15%. Ainsi que les sciences naturelles et appliquées et les domaines apparentés, 8%. À ces données, on peut ajouter que quelques 7500 francophones sont considérés comme des travailleurs autonomes, soit 16% de la population active francophone, un chiffre qui rejoint les 15% de l'ensemble des travailleurs autonomes albertains. Nouveaux arrivants. Coordonnateur du Centre d'emploi au Centre d'accueil pour nouveaux arrivants francophones, CANAF, Erwan Auger, précise au téléphone que les services d'employabilité du CANAF sont réservées pour l'instant aux résidents permanents et aux réfugiés acceptés de la région de Calgary. Depuis environ 2 ans, ce centre d'emploi qui a pignon sur rue permet aux chercheurs d'emploi de rédiger, entre autres, des curriculum vitae, CV, selon les normes canadiennes, ou encore de préparer des entrevues fictives, d'avoir accès à des ateliers touchant la recherche d'emploi et même de présenter des CV à des employeurs. Petit à petit, on a réussi à mettre en place un centre d'emploi avec vitrine sur la rue. Maintenant, notre gros but, c'est d'essayer d'aller chercher du financement pour qu'on puisse aider bien plus que juste les résidents permanents, explique Erwan Auger. Pour l'heure, parmi les principaux clients du CANAF en ce qui concerne l'employabilité, Erwan Auger mentionne que les résidents permanents originaires du Cameroun tiennent le haut du pavé. Suivent des gens de la Côte d'Ivoire et du Maghreb. Et dans quel domaine? Des ingénieurs à l'appel, précise le coordonnateur. Au total, c'est plus de 820 clients encadrés, comme le précise Erwan Auger, depuis 2 ans. Grâce à 3 foires d'emploi réalisées depuis 18 mois, des employeurs comme les Forces armées canadiennes commencent à connaître l'existence du centre d'emploi du CANAF, précise M. Auger. De tels événements ont attiré jusqu'à 120 personnes à chaque fois, ou presque, dont une 20aine d'employeurs. Est-ce à dire que tout va pour le mieux pour celles et ceux qui souhaitent mettre plus de beurre sur leurs épinards? Alphonse Ndem Aola, directeur général de Francophonie albertaine plurielle, FRAP, à Edmonton, constate qu'une arrivée massive d'immigrants a rendu la situation plus difficile. Il y va de quelques défis auxquels doivent s'attendre les nouveaux venus francophones en Alberta. Le principal problème, évidemment, demeure la langue. Ceux qui sont bilingues, c'est un atout, estime M. Aola. Il constate que l'arrêt par le gouvernement albertain de bourses octroyées pour apprendre l'anglais vient énormément compliquer les choses pour les nouveaux arrivants. La reconnaissance des diplômes est également un autre défi auquel on doit s'attendre. Enfin, il faut savoir que les entreprises francophones ne sont pas suffisamment nombreuses pour absorber tous les nouveaux francophones. De son côté, Parallèle Alberta, ayant repris récemment le service d'employabilité de l'organisme Accès Emploi, il leur est difficile d'évoquer les retombées des derniers mois. Comme le souligne avec espoir le directeur général de la FRAP, en dépit des embûches qui peuvent se présenter, on finit par réussir, par s'en sortir, si on persiste. C'était « Bon Dieu, donne-moi une job », un texte d'André Magny, paru le 20 octobre 2024 dans Le Franco.
Le premier hiver du figuier blanc. Un texte de Rose Aimée, Automne, T. Morin, paru le 20 novembre 2024 dans La Presse. C'est une histoire de rencontres fortuites, de jardinage et de deuil. Je marchais dans une ruelle de la Petite Italie, à Montréal, quand un jardin a attiré mon attention. J'ai pris note de revenir dans le coin l'été prochain pour ma série sur les maisons intrigantes. Cette cour devait être spectaculaire en période estivale. Malheureusement, l'automne s'était déjà bien installé et, pour l'instant, je cherchais des gens qui faisaient leur propre vin. J'ai donc continué ma route en remontant la rue dont je venais d'arpenter les coulisses à l'affût de la moindre vigne. Une femme était assise sur le pas de sa porte et classait des papiers. Je lui ai demandé si elle connaissait des gens qui faisaient pousser des raisins dans le quartier. Elle m'a souri en répondant qu'elle faisait pousser plein de choses, dont des raisins, mais qu'elle ne les transformait pas en vin. J'ai compris que le jardin que j'avais remarqué plus tôt était le sien. Je lui ai lancé des fleurs. « Oh, il est plus beau habituellement, » m'a-t-elle dit. « Mon conjoint vient de mourir et je manque de temps. Je suis dans la succession, comme tu peux voir. » Elle m'a offert de visiter sa cour en m'expliquant qu'elle cachait un petit trésor, un figuier blanc. Et moi, je l'ai suivi, ému de constater, encore une fois, à quel point bien des humains sont prêts à se lier aux autres. Si on valorisait tous et toutes notre envie de connexion, on finirait par visiter des jardins à longueur d'année. Nos épaules seraient plus basses et notre souffle plus doux. La jardinière m'a tendu une figue en précisant qu'il est rare de trouver des arbres qui en produisent encore dans le coin. Le figuier blanc, originaire du bassin méditerranéen, n'est pas adapté à notre climat, bien que nombre de familles italiennes aient tenté de le faire fleurir dans le quartier. J'ai savouré la délicatesse du fruit et offert à mon hôtesse de l'interviewer. Elle a haussé les épaules. Pourquoi pas? Isabelle Dupuis a commencé à jardiner à 14 ans. Cet étonnant passe-temps d'adolescence s'est transformé en études en horticulture et, bien qu'Isabelle soit aujourd'hui chapelière costumière, la flamme ne s'est jamais éteinte. Partout où elle va, la femme de 52 ans fait pousser des fleurs. L'amour maintenant. Isabelle a rencontré Giuseppe dans un parc où tous les deux avaient l'habitude de promener leurs chiens. Pendant un an et demi, l'homme lui a proposé un rendez-vous galant et pendant un an et demi, elle a décliné son offre. C'est qu'elle était déjà prise. Puis, un jour, elle ne l'a plus été. « Il a fini par me convaincre », se souvient-elle avec tendresse. Il y a 5 ans, Isabelle a emménagé avec Giuseppe dans la maison que sa famille détenait depuis longtemps. Aussitôt, elle y a cultivé un jardin. Elle ne partait pas de rien. La mère de Giuseppe avait importé un figuier blanc d'Italie il y a plus de 40 ans. L'arbre faisait depuis la fierté du clan. Chaque année, Giuseppe en enterrait les branches pour le préserver des morsures de l'hiver, une tradition qu'Isabelle a évidemment embrassée. Ensemble, ils tendaient les rameaux à l'aide de cordes, puis les ensevelissaient avant l'arrivée du temps froid. Au fil des années, Isabelle a fait pousser des fraises, des framboises, des roses, des pivoines, des mûres, des lilas et nombre de légumes autour du figuier blanc. Elle a attiré les oiseaux du quartier et les éloges de son chum qui adorait se poser dans le jardin le soir venu. Romantique, il aimait le décorer de chandelles. Puis, le 14 juin 2024, Giuseppe s'est fait piquer par une guêpe. Quand ses lèvres ont commencé à enfler, Isabelle a appelé une ambulance. Une heure plus tard, il mourait d'un anévrisme au cœur qui, selon les médecins, n'avait finalement rien à voir avec la guêpe. Isabelle, elle, était restée à la maison avec les deux enfants en bas âge dont son amoureux et elle avaient l'habitude de s'occuper. Elle ne se doutait pas que, lorsqu'elle retrouverait son homme à l'hôpital, il serait trop tard. Pas eu le temps de dire au revoir. Cette année, Isabelle ne trouve pas la force d'enterrer le figuier. Des voisins et des proches ont proposé leur aide, mais l'arbre est devenu trop grand selon elle. La tâche serait lourde. Surtout, le cœur n'y est pas. Elle va protéger le figuier avec de la paille et espérer qu'il traversera l'hiver. « Il se peut qu'il soit en train de donner ses derniers fruits », m'a-t-elle dit. Je me suis trouvée chanceuse d'en avoir dégusté un. Au même moment, un chat s'est faufilé entre les pattes d'Isabelle, qui l'a pris dans ses bras en me le présentant. Roméo. C'est, du moins, le nom qu'elle lui a donné quand il est apparu de nulle part, 3 jours après le décès de Giuseppe. Une famille l'a laissé derrière elle avant de déménager, selon les rumeurs. Depuis, il aime traîner chez Isabelle. Cette nuit, il a dormi avec elle. Tout en flattant son Roméo, Isabelle m'a glissé qu'elle ne s'attendait pas à accorder une entrevue à qui que ce soit quand elle s'était assise avec ses papiers de succession. D'autant plus que c'est rare qu'elle s'installe ailleurs que dans sa cour. C'est juste qu'elle cherchait avidement les rayons de soleil. Il y a des après-midi comme ça. Je lui ai demandé si elle était à l'aise avec le fait que cette discussion sur le jardinage vire en un texte sur un figuier blanc et un partenaire perdu. Elle m'a souri, encore. Et ça me va. Giuseppe aurait aimé ça, posé à côté de son arbre. Il l'aimait tellement que je me dis parfois qu'on aurait dû l'enterrer à ses racines. C'était le premier hiver du figuier blanc. Un texte de Rose Aimée, Automne, T. Morin, paru le 20 novembre 2024 dans La Presse.
L'Inuktitut, désormais disponible sur Google Traduction, un texte de Karine Lavoie, paru le 6 novembre 2024 dans Le Nunavut. L'Inuktitut a officiellement fait son apparition sur la plateforme de traduction de textes, de documents et de sites web Google Traduction. Fruit d'un travail de 4 ans, l'Inuktitut devient ainsi la première langue autochtone canadienne à pouvoir être traduite via cet outil technologique. L'ajout de l'Inuktitut à Google Traduction s'inscrit dans le cadre d'une initiative débutée en 2020 visant à créer un modèle de langage basé sur l'intelligence artificielle pour prendre en charge les 1000 langues les plus parlées au monde. Selon Statistique Canada, approximativement 40 000 Canadiens parlent l'Inuktitut. Un long travail de développement. La première étape du développement de cet outil consistait à évaluer la faisabilité au niveau de la technologie et plus spécifiquement de voir s'il était possible de bâtir un modèle qui reconnaît l'Inuktitut. Après avoir déterminé cela, un long processus de consultation et d'ajustement du modèle est nécessaire afin d'optimiser la qualité de la traduction avant le lancement, résume Isaac Caswell, ingénieur principal chez Google Traduction. Un groupe d'experts et de locuteurs natifs de divers dialectes régionaux ont d'abord été consultés. Puis, l'Inuit Tapirit Kanatami, Iteka, a conseillé Google sur la qualité de la traduction et sur le système d'écriture utilisé pour la langue. Lors de nos consultations avec Iteka, nous avons pris connaissance de leurs efforts pour préserver leur langue grâce au développement d'un système d'écriture unifié et l'utilisation du convertisseur Inuktitut Kaliujaa-Kpait afin de refléter l'utilisation de l'alphabet romain et des syllabiques dans les différentes régions et dialectes, dit Isaac Caswell, ingénieur principal chez Google Traduction. Lancé sur le site web d'Iteka le 19 octobre 2022, cet outil convertit le texte orthographique régional tapé ou copié et collé dans des dialectes tels que l'Inuinak ou inversement. Le travail de Google Traduction s'appuie donc sur ce travail important entrepris par Iteka au cours des dernières années pour unifier leur langue et la préserver pour les générations futures. Enfin, ITK a offert son soutien à Google dans la mise à disposition de la langue, ce qui a permis de procéder au lancement. En tant qu'organisation nationale représentative des Inuits au Canada, nous nous efforçons de revitaliser, de protéger et de promouvoir l'Inuktitut. Nous saluons le travail de Google visant à inclure l'Inuktitut dans sa liste de langues sur Google Translate. L'ajout de cette langue sur une plateforme aussi largement utilisée permet aux Inuits d'interagir plus pleinement dans le monde numérique, dit Nathan Obed, président de l'Inuit Tapirit Kanatami. Dans un échange de courriel, l'organisation indique avoir collaboré avec Google pendant 3 ou 4 mois et espère à présent maintenir une relation avec eux. Une langue complexe. Google se donne comme mission de rendre l'information mondiale universellement accessible et utile envers les personnes de toutes les communautés et les locuteurs de toutes les langues, et non seulement les langues les plus parlées au monde. Au cours de l'histoire de Google Traduction, plusieurs demandes ont été formulées pour que l'Inuktitut et d'autres langues autochtones des Amériques soient représentées. Nous choisissons les langues en fonction de l'intérêt de la communauté et de la faisabilité technologique. La communauté inuit est également relativement importante, bien organisée et de plus en plus présente en ligne, ce qui signifie que nous disposions d'une grande quantité de matériel et d'expertise pour développer notre modèle linguistique, déclare Isaac Caswell. Par sa variété de dialectes, avec leurs propres caractéristiques, sa grammaire polysynthétique et son système d'écriture unique, l'Inuktitut demeure difficile à traduire et représente un défi de taille pour les modèles d'intelligence artificielle. Bien que l'équipe de Google ait tenté d'améliorer la précision autant que possible, l'entreprise reconnaît qu'il y aura encore beaucoup d'erreurs. Nous considérons cela comme une première étape, et à mesure que nous recevrons des commentaires et que notre technologie s'améliorera, la qualité de la traduction s'améliorera également, conclut Isaac Caswell. C'était l'Inuktitut désormais disponible sur Google Traduction, un texte de Karine Lavoie, paru le 6 novembre 2024 dans le Nunavoie.